l'abricot, l'amande, l'autel, la bague, le barbu, le baveux, le berlingot, le bijou, la boîte à ouvrage, la bouche d'en bas, la boutique, le bouton, le brasier, la brèche, la chagatte, la chatte, la cheminée, la cicatrice, le con, le coquillage, la corbeille, la cramouille, la craquette, la crevasse, la crevette, l'enfer, la fève, la figue, la fleur, la fontaine, la foufoune, le four, le frifri, la grotte, la guérite, l'huître, le jardin, le jardinet, le joyau, la mandoline, la marguerite, la marmite, la marmotte, le millefeuille, le minou, la moule, la nature, le nénuphar, le nid, l'ouvroir, le paradis, la porte, la salle des fêtes, la serrure, le temple, la tirelire, le trésor, le trou, le vagin, la vulve, la zézette. Et si vous entrez dans la salle des fêtes, vous verrez le clitoris. Alors, pour parler de ce sujet, de ce point sensible, aujourd'hui, 11 novembre, nous allons écouter dans Lilith Martine et les autres un reportage qui a été réalisé par Camille, qui est avec nous dans le studio. Salut Camille.
Salut.
Salut.
Camille fait partie d'une association d'art numérique à Orléans et elle a eu une idée un peu étrange de fabriquer avec une imprimante 3D un objet particulier que vous allez découvrir au travers de témoignages de gens. Et après, vous entendrez aussi une interview avec la chercheuse Odile Philo. Et avant ça, on s'écoute une petite musique didactique. Si ça fonctionne.
Architecturally, to the word surprise.
écouter Clitopia, ode déjantée au clitoris.
C'est une chanson de Dorian Electra, une jeune chanteuse américaine. Et je vous recommande d'aller sur Internet pour voir son clip qui est absolument génial. Et comme ça, vous saurez tout sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans L'élite, Martine et les autres.
Moi, j'aime bien la personne qui dit « Ah, c'est très, très étrange, c'est complètement extraterrestre. Qui dit il y a quelque chose d'assez franc-maçon. Alors ce que je trouve intéressant dans cette réflexion, c'est finalement la référence involontaire à l'aspect symbolique de la chose.
Donc est-ce que c'est un sexe?
Quelqu'un qui dit est-ce que ça serait pas un truc un peu hermaphrodite, hein, tu sais, des testicules à l'intérieur, etc. Alors bon, donc comme j'ai expliqué, bon, il y a une erreur parce qu'effectivement les bulbes ne sont pas du tout l'homologue des testicules, mais voilà, je me suis dit tiens, il y a quand même de l'idée quand cette personne dit un truc hermaphrodite. Voilà, ça veut dire qu'elle a perçu intuitivement que en fait tout être humain est doté d'un organe érectile qui a comme ça deux racines, des corps caverneux, des corps spongieux. Quelqu'un en passant qui arrive par déduction, qui dit bon, alors donc c'est un organe génital femelle ou un organe sexuel féminin, mais qui dit mais et ça produit pas d'ovules. Donc là aussi j'ai trouvé ça significatif du fait que si on pense aux organes génitaux féminins, alors on pense à quelque chose forcément qui est lié à la reproduction. Voilà, on n'imagine pas qu'il y a autre chose, qu'il y a vraiment un organe qui est dédié au plaisir sexuel.
Qu'est-ce que c'est, monade, après toi?
C'est une représentation schématique ou à l'exact?
Schématique.
Est-ce que c'est un... Je peux te poser des questions?
Oui, je réponds par oui ou par non.
D'accord.
Il faut que je devine ce que c'est.
Mais c'est un jeu de questions-réponses parce que toi, tu sais ce que ça représente.
Ah, oui,
et on doit retrouver. Très bien.
Ok.
C'est plus épais au centre. Ça a comme deux petits bras de part et d'autre. Et je dirais une tête avec un bec.
Bah, c'est un objet, on va dire, de forme quasi triangulaire, quoi, quelque part, avec deux excroissances rondes, ressemblera à deux sacs avec un trou au milieu, une petite pointe qui dépasse, c'est difficilement descriptible, quoi. Est-ce que c'est un objet organique?
Alors la forme est assez difficile à décrire, ça fait penser à pas mal de choses en même temps. Il y a un peu l'idée d'un crochet, j'ai l'impression, un peu comme un hameçon. L'idée aussi d'un pendentif, parce qu'il y a le petit trou là qui permet voilà, éventuellement d'imaginer que ça peut être un pendentif. Il y a, malgré le côté rose et plastique, il y a un petit côté presque corps humain, je dirais.
Thank you.
forme du cœur.
Ça m'évoque quelque chose d'assez, d'assez organique.
Ouais.
C'est symétrique. On voit des poumons, quelque chose qui ressemble à ça. On peut voir un cœur comme ça. Il y a quelque chose d'assez franc-maçon aussi.
Il y a des moules. Non, il y a deux parties en fait, l'une sur l'autre.
Ouais.
Dans des. Ça vient des fonds marins ?
Non.
Ou de l'eau ? Non. On dirait des. Pas du tout. D'accord.
C'est un pingouin testicule.
Ça vient du vivant ?
Oui.
C'est
oui.
Une représentation vivant, oui.
Oui.
C'est pas du tout un crustacé ? Enfin, ça.
Non.
Bon, rien à voir.
Non.
Ok.
Un pingouin femelle ?
Non.
Une fusée ?
Non.
Est-ce que ça. Ça me fait penser à un cœur de poulet.
Non, c'est pas ça.
C'est un nom spécial ?
Oui, oui.
Ça vient d'un autre pays ?
Non.
Ça se mange ?
Non.
Ah, c'est pas chez. C'est chez les poulets, ce qui porte chance. C'est sûr que c'est pas un pingouin femelle.
J'opte pour le pingouin à testicules. C'est plutôt évident.
C'est pas ça.
Mais c'est évidemment pas ça, ouais, c'est, ouais, forcément.
On dirait des moules, mais en fait, comme c'est. Je pense que c'est parce que c'est l'impression numérique qu'on dirait des moules. C'est un objet naturel ou.
Oui.
Les pics font partie du.
Oui.
Du d'accord. C'est organique ou. C'est pas végétal ? Non, c'est.
Ça ressemble à un pingouin, quand on met dans ce sens-là. Donc c'est pas un cœur, mais ça on n'est pas loin. Donc c'est pas une représentation symbolique, c'est dans la vraie vie, on trouve des trucs comme
oui,
ça quelque
oui,
part.
Exactement. Après, le nommer précisément, je. Voilà, je sais pas, je suis même pas. Enfin, j'ai trop peur de dire une bêtise, alors je préfère me taire. Je suis pas sûre.
Est-ce que c'est situé. J'en sais rien, moi, t'es marrant. Est-ce que ça sert à se nourrir dans le processus de. Est-ce que c'est quelque chose de sexuel ?
C'est compliqué.
Moi, je vais perdre. D'accord. C'est. Il y a un organe génital.
Ouais.
Ouais. Mâle.
Non.
Femelle.
Mm-hmm.
C'est. D'accord. Non, c'est pas. Je sais pas.
Bah ouais, on dirait un cœur quand on le met comme ça, mais il y a des bras, donc. Et puis une espèce de bec, donc. C'est censé être un truc connu, enfin un objet du quotidien. Est-ce que c'est une partie d'un tout ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des trucs qui seraient reliés
à distance ?
Et ça sécrète pas, ça ne produit pas d'ovules, non, rien du tout. D'accord, il y a des cellules, ça produit des cellules ou pas ?
C'est pas un truc de poulet, genre le solilès ? Des glandes surrénales je sais même pas ce que c'est. Je sais pas, des cordes vocales ou des trucs qu'on a au fond de la bouche, là, les amygdales ?
Malheureusement, je connais pas. Le nom, j'ai pas en tête l'anatomie précise du truc. Je pense que je l'ai jamais eu en tête. Je pense que j'ai dû déjà le voir dans des choses ou quoi, mais. Les poumons. J'étais parti de l'organique. C'est une pièce du corps humain. C'est une pièce du coccyx, non ? C'est une pièce de la cage thoracique, en fait. Est-ce que c'est à l'échelle ?
Alors, donc, est-ce que c'est
Est-ce que c'est un sexe?
C'est des testicules comme les testicules. C'est comme si le truc des femmes. Enfin, je sais pas si on a des testicules, nous, mais tu sais, un peu le truc qui serait un peu androgyne. Je sais pas, tu vois, un peu quelque chose qui soit comme ça, là, un truc d'hermaphrodite, des testicules à l'intérieur et qu'un truc à l'extérieur.
Bah, sincèrement, pour moi, c'est soit une paire de fesses, soit une paire de seins.
Bon, bah, c'est une vulve. Ça, c'est des testicules?
Non.
Ok, c'est pas des testicules. Je suis embêtée. C'est sexuel. C'est féminin ou masculin? C'est féminin?
Oui.
Et c'est pas une vulve. C'est féminin. C'est à l'intérieur du corps? Donc on le voit pas.
Est-ce qu'il y aurait un mélange entre une idée, entre le sexe et l'homme et le sexe de la femme? Il y a un lien avec les organes?
Oui.
Plutôt un organe féminin?
Oui.
Donc proche du vagin? Alors, est-ce que ça pourrait être... franchement, hein, je vais... Est-ce que ça pourrait être... Est-ce que c'est une partie visible?
Est-ce que les femmes et les hommes, ils ont le même?
C'est... les testicules?
Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin.
Est-ce que c'est masculin?
Donc c'est... Est-ce que c'est féminin?
Quoi? C'est un stérile? J'imagine qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'organe sexuel. Après, j'imagine qu'il y a l'idée d'avoir aussi des hommes pour parler des organes sexuels féminins et de la méconnaissance du genre masculin des organes sexuels féminins, ce qui est du domaine du très plausible avec moi. Mais, par ailleurs, il y a cette forme qui évoque de près ou de loin des testicules. Mais tout en n'étant pas tout à fait ça non plus, parce que des testicules coincés dans un stérilet, ça me paraît un peu curieux. Je vais poser les questions simples, une à une. C'est un objet qui est en rapport avec des organes sexuels?
Oui.
Féminins?
Oui.
Alors, Est-ce que
c'est présent chez les individus de sexe masculin et de sexe féminin? Est-ce que c'est un élément d'organe sexuel?
Oui.
Féminin?
Je ne sais pas, une espèce de... Qu'est-ce que ça pourrait bien être? À quoi ça pourrait servir? Ah, il représente quelque chose, d'accord, ok. Paire de fesses, de seins. Très très étrange, complètement extraterrestre. Je sais pas, ça m'évoque plein de trucs, mais alors pas du tout, je vois aucune logique, tout ça. J'en sais foutrement rien. Non, je suis désolé, je suis vraiment pas... Je suis pas dedans, ça m'évoque rien.
Bah après, moi, il y a quand même des éléments qui me laissent perplexe. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des choses, mais voilà, les éléments comme ça ne me permettent pas d'être sûre de moi. Non, je... Voilà, d'accord. Donc effectivement, mais alors, dans une... quand vous dites qu'il n'y a que la pointe qui apparaît, c'est-à-dire que là, du coup...
Alors, est-ce que c'est...
Alors, est-ce que ça toucherait au clitoris? C'est le clitoris.
Je sais pas, ça m'évoque rien de particulier, quoi, non plus, mais... Enfin, si, quand même, mais le nom exact, je sais pas, est-ce que c'est un...
est-ce que c'est un vagin? Est-ce que c'est un clitoris? Non? Alors vas-y, est-ce que c'est un clitoris?
Oui.
D'accord. Bon.
Tu veux dire que cette partie-là, on la voit? C'est pas un clitoris?
Si.
C'est stylisé.
Ça a un effet. D'accord, un clitoris.
Alors moi, j'en connais quelques-uns des organes féminins. Mais je m'en présente assez mal un utérus.
Non.
Je m'en présente assez mal un vagin. Mais en tout cas pas comme ça, c'est sûr. C'est pas un clitoris, c'est pas possible.
Pourquoi?
Ah. Oui, d'accord. Après.
Ah, d'accord. Bon.
Alors si c'est un clitoris, j'ai gagné. Eh ben j'ai gagné et je peux aller m'occuper de mes filles. Merci.
C'est le clitoris alors.
On dirait comme un pingouin testicule. J'ai gagné, hein.
Parce que ça fait penser à, dans l'évolution du sexe féminin, à un moment donné, il y a ça, là. Un clito? Je pensais pas que c'était si grand, par contre.
J'aurais tendance à dire que ça pourrait représenter un clitoris, mais la partie intérieure de les ramifications, je sais plus comment on appelle ça, les racines. J'en ai entendu parler que très récemment, mais qu'il y a un bout qui sort, mais... que le reste, c'est des racines assez profondes, mais j'en sais pas beaucoup plus.
Ah, c'est dur, hein. Faut un peu de connaissance quand même, hein. Oh, ça se trouve, tu vas me dire ce que c'est, je vais dire ah oui, c'est tellement évident, puis en fait... Non, mais je pense pas que ça soit tellement évident. Après, poétiquement, je trouve que c'est assez beau, hein. Ça, on pourrait penser à une espèce de tête d'oiseau, comme ça, un peu égyptien, tu sais. Avec un torse comme ça, tu sais, et des deux bras comme ça. Est-ce que c'est le mécanisme clitoricien? Donc c'est ça en fait, c'est la péninsule qu'il y a là, c'est le clitoris. Putain, j'ai trouvé quoi. Ok.
certaines formes d'intersexuation qui correspondent à la possession d'un organe qui est comme ça intermédiaire, donc entre le clitoris et le pénis. Et voilà, j'ai trouvé intéressant que des gens aient perçu quand même qu'il y avait cette espèce d'homologie et de continuum finalement entre deux formes, soit la forme extrême masculine ou extrême féminine d'un organe qui, voilà, mais qui est le même chez tout le monde fondamentalement. Donc je m'appelle Odile Fillot, j'ai 44 ans. Je suis chercheuse indépendante en sociologie des sciences et de la vulgarisation scientifique, et j'explore en particulier la production et la diffusion des discours savants sur les différences biologiques entre femmes et hommes. Enfin, autant il y a plein d'organes, même dessinés de manière stylisée, que n'importe qui identifie immédiatement, autant voilà, cet organe il est vraiment, vraiment méconnu, ça paraît totalement étrange. Alors, en fait, j'avais mené il y a plusieurs années des recherches sur les biais de sexe ou biais sexistes dans les manuels de SVT, les sciences de la vie et de la terre, et j'avais constaté à cette occasion que le clitoris était souvent absent des schémas censés décrire l'appareil génital féminin, mais aussi qu'il était en fait jamais représenté correctement. Et suite à ce travail sur les manuels scolaires, j'ai été sollicitée dans le cadre de la création d'une plateforme web de vidéos pédagogiques antisexistes. Et donc, en février 2016, j'étais en train de préparer le tournage d'une de ces vidéos et je me suis dit que ça serait bien de montrer dans l'une d'elles à quoi le clitoris ressemblait vraiment en entier, en trois dimensions et à sa taille réelle, c'est-à-dire environ 10 cm en moyenne. J'ai créé ce modèle stylisé, imprimable en 3D, donc avec l'aide du Fab Lab de la Cité des Sciences à Paris. Et on l'a mis à disposition début mai sur leur site, donc sous licence Creative Commons, pour que comme ça n'importe qui puisse l'utiliser. En fait, j'ai tout simplement fait une revue de la littérature scientifique, donc j'ai compulsé un certain nombre d'articles scientifiques publiés dans des revues de gynécologie, obstétrique, urologie, etc. Et voilà, sur cette base, j'ai établi une taille moyenne et puis un aspect à peu près plausible, sachant que la forme et la taille sont quand même assez variables, hein, d'une femme à l'autre et d'une étude à l'autre d'ailleurs. Mais voilà, c'est... Là, le modèle que j'ai, je l'ai peint en fait à la main après impression, parce que quand on imprime en 3D, tout est de la même couleur. Donc la partie que j'ai faite en plus clair, en rose, correspond à ce qu'on appelle habituellement clitoris, c'est-à-dire donc les deux racines qui se rejoignent pour former le corps du clitoris, et avec son genou, donc il est replié, et puis l'extrémité qui est le gland. Et la partie que j'ai représentée en rose plus foncé ou rouge correspond à ce qui a été historiquement appelé les bulbes vestibulaires ou bulbes du vestibule, et ce qu'on appelle maintenant de plus en plus souvent dans la littérature scientifique les bulbes du clitoris, puisqu'en fait ce sont des tissus érectiles. En fait, le clitoris et les bulbes sont constitués de tissus érectiles. Et c'est l'ensemble de cette structure qui forme l'organe homologue au pénis, en fait. La couleur, en fait, correspond aussi à une réalité anatomique, c'est-à-dire quand on fait une dissection, la partie qui est rose, elle est entourée d'un tissu qui fait qu'elle apparaît plus claire, alors que les bulbes, eux, ne sont pas entourés de cette tunique, et donc ils apparaissent plus foncés. Voilà, j'ai voulu rendre compte de ça. Alors effectivement, c'est pas très facile à décrire, mais c'est justement pour ça que c'était que j'ai ressenti le besoin de le montrer en 3D. Mais d'abord, on a les deux racines du clitoris qui sont fixées aux os du bassin, en fait, aux os ischio-pubiens. Et puis, donc, ces deux racines donc, remontent le long de ces os, et ensuite, donc, elles se rejoignent pour former le corps. Et ce corps est suspendu par un ligament au niveau de la symphyse pubienne, donc au milieu du pubis. Et voilà, donc la partie libre ensuite du corps du clitoris dépasse très légèrement au-dessus de la vulve, et c'est ce qui constitue le gland, donc qui est en fait fusionné avec l'extrémité des petites lèvres. Donc ça, c'est pour, pour ce qu'on appelle habituellement le clitoris lui-même. Et puis les deux bulbes, en fait, eux sont rattachés au clitoris par un ensemble de veines. Et ils sont de part et d'autre, à la fois du vagin et de l'urètre. C'est quelque chose que j'ai entendu déjà plusieurs fois quand les gens voient ce modèle de clitoris. Une fois qu'on leur a expliqué ce que c'était et que c'était l'équivalent des organes génitaux externes masculins, ils ont tendance à penser que les bulbes, en fait, c'est l'équivalent des testicules. Ces deux bulbes qui sont rattachés au corps du clitoris, c'est ce qui correspond au corps spongieux du pénis. Ça a créé un buzz en fait assez incroyable sur Internet. Quand l'existence de ce modèle a commencé à être connue, petit à petit, voilà, ça a enflé, ça a vraiment déclenché une espèce de vague d'enthousiasme, non seulement en France, mais à l'étranger aussi. J'ai un peu suivi ce qui se passait, il y a eu des articles vraiment dans le monde entier. Je pense que ça s'explique en premier lieu par le fait qu'il y a une méconnaissance générale de cet organe. Il y a quand même pas mal de femmes qui manifestement ont compris que c'était important pour elles, pour les femmes en général, de connaître cet organe. Alors vraiment, la quasi-totalité des réactions étaient ultra positives. Il y a eu néanmoins effectivement quelques réactions négatives. Alors si je me fie aux articles même, hein, parce qu'après il y a aussi les commentaires que les gens vont poster sous les articles sur Internet, et là il y a un peu de tout. Mais les rares articles négatifs qui ont été publiés, d'abord il y en a eu uniquement en France et en Italie, et dans les deux cas c'est venu uniquement de médias, en gros d'obédience catholique, voilà, droite, ultra-conservatrice. Ça montre en creux l'un des intérêts de parler du clitoris, qui est de parler finalement de la dissociation entre sexualité et reproduction. Et c'est ça qui gênait ces gens, en fait. Ils veulent pas qu'on parle du clitoris parce que voilà, c'est parler du clitoris, c'est parler du plaisir sexuel indépendant de la reproduction. Ce qui n'est pas le cas si on parle du pénis et de l'érection et de l'éjaculation, puisque tout ça, ça fait partie des choses qui sont nécessaires à la reproduction. Alors que le clitoris, il sert absolument à rien dans la reproduction, donc c'est un souci pour eux. Voilà. Alors, j'ai pas fait de recherche historique approfondie, parce que c'était pas mon sujet, mais je peux quand même vous dire deux, trois choses. Déjà, le clitoris, il est connu depuis l'Antiquité, hein, des auteurs grecs en parlent déjà. En ce qui concerne son anatomie vraiment précise, avec non seulement les corps caverneux, mais également les bulbes et ce réseau de veines qui relie les deux, etc. Enfin, toute cette anatomie qui est bien documentée aujourd'hui, elle était déjà parfaitement décrite en 1844, en fait, dans un article scientifique qui avait été publié par M. Cobalt, qui a d'ailleurs donné son nom à ce plexus veineux qui relie les deux parties du clitoris, enfin le clitoris et ses bulbes. Et si c'est tombé dans l'oubli, c'est très certainement parce que à la fin du 19e siècle, on a acquis la certitude que le plaisir féminin ne jouait absolument aucun rôle dans la reproduction. Puisqu'il faut savoir qu'avant, on pensait que, de manière symétrique à l'homme, la femme devait absolument avoir un orgasme, donc il fallait qu'elle ait du plaisir pour qu'elle puisse émettre sa semence, comme on disait à l'époque, et puis que donc les deux semences se rencontrent. Voilà. Il a été redécouvert plusieurs fois, en fait. On est dans une espèce de cycle de redécouverte périodique du clitoris. La fréquence des redécouvertes augmente, c'est de plus en plus proche. Et puis là, je me dis, il y a eu un buzz tellement énorme que peut-être cette fois-ci, il ne va pas retomber dans l'oubli. Enfin, on verra. La vidéo que j'ai préparée, dans laquelle je montre ce clitoris, donc elle est destinée à être utilisée par des enseignants et des élèves. Enfin, je suis en relation avec des enseignants de SVT depuis déjà pas mal de temps, donc je leur en ai parlé, en fait. Et ben oui, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont manifesté aussi leur enthousiasme en disant c'est super. Il y a des imprimantes 3D maintenant dans la plupart des établissements, donc on va l'imprimer dans notre établissement et du coup on va pouvoir s'en servir en cours. Donc je sais qu'il y a des enseignants qui ont prévu de s'en servir cette année. Selon la loi, voilà, les élèves sont censés avoir 3 séances par an de la première année maternelle jusqu'à la dernière année de lycée. Donc voilà, on pourrait espérer qu'on parle un peu mieux de la sexualité aujourd'hui. Voilà, mais en réalité, c'est pas le cas, malheureusement. Les séances d'éducation à la sexualité sont en théorie obligatoires, en fait, ne sont pas du tout dispensées dans la quantité qui est prévue, vraiment très très loin de là. Il y a plein d'élèves qui, dans toute leur scolarité, vont avoir peut-être 3 séances et c'est tout. En gros, une en quatrième, une en seconde, une en première. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'ai été contactée par beaucoup, beaucoup de sexothérapeutes aussi. Il y a une activiste, une artiste et militante féministe américaine qui avait, il y a quelques années déjà, fait un modèle de clitoris en 3 dimensions. Et elle insistait beaucoup sur justement cet aspect symbolique, en fait. Donc elle, son souhait, c'était vraiment que cette représentation se répande voilà, sur tous les murs des villes, enfin que, voilà, que ça devienne un peu, effectivement, une sorte de symbole de la prise de conscience voilà, du fait que les femmes, elles ont aussi un organe sexuel proprement dit. C'est pas juste, elles n'ont pas juste un vagin, quoi. Elles ont... elle aussi a un sexe à proprement parler et voilà, qui a une jolie forme. Voilà. D'abord, ça vient du grec, hein, parce que comme je l'ai dit, cet organe était déjà bien connu des savants grecs dans l'Antiquité. Et donc, il y a une hypothèse qui serait que ça vient d'un mot qui désigne une colline. Il y a au moins une autre hypothèse, hein, je pense qu'il y a, je sais plus, c'est en rapport avec l'idée d'une clé, en fait, qui serait la clé, finalement, la clé du plaisir, ou la clé de l'entrée de la vulve, ou quelque chose comme ça. Voilà, cette hypothèse-là me semblait un peu plus vraisemblable. Il n'y a pas d'étymologie attestée, consensuelle. Voilà. Déjà, faire savoir que le clitoris et le pénis sont des organes homologues et fonctionnent de la même façon, ça permet de faire comprendre qu'il n'y a pas deux sexes fondamentalement différents et que l'organe du plaisir sexuel des femmes, eh bien, c'est pas leur vagin. Voilà, ça me paraît très important. Donc faire comprendre que l'excitation sexuelle des femmes, ça se traduit également par une érection. Une érection qui, comme chez les hommes d'ailleurs, appelle une forme de soulagement, y compris par la masturbation. Faire comprendre que les femmes peuvent difficilement avoir un orgasme sans que leur clitoris soit stimulé, exactement de même que c'est assez difficile pour un homme d'atteindre un orgasme sans stimulation de son pénis. Donc après, faire connaître plus précisément l'anatomie du clitoris, ça permet aux femmes de connaître leur corps, de comprendre comment elle fonctionne, ce qui leur donne du plaisir et pourquoi, d'explorer toute leur potentialité de plaisir sexuel et d'orgasme. Ça leur permet aussi, notamment, de ne pas s'imaginer qu'elles sont frigides ou qu'elles sont anormales quand le coït vaginal ne les fait pas jouir, parce que, en fait, c'est très courant et c'est tout à fait logique compte tenu de la position anatomique du clitoris. Ça permet aussi de faire en sorte que les femmes ne s'imaginent pas, au contraire, qu'il est normal qu'elles aient pas de plaisir. Voilà, c'est pas normal qu'une femme n'ait pas de plaisir, c'est qu'elle n'a pas encore compris comment ça marchait, et donc connaître l'anatomie du clitoris, ça aide quand même rudement à comprendre comment on fonctionne. Alors, bon, j'ai parlé des femmes, mais Je pense aussi que connaître cette anatomie, ça permet aussi aux hommes de comprendre qu'une sexualité qui est centrée uniquement sur le coït péno-vaginal, ça a toutes les chances d'être insatisfaisant pour une femme. Et en particulier, ça peut leur permettre de comprendre que les pratiques, ça je pense surtout aux jeunes hommes en fait, aux adolescents, ça leur permet de comprendre que les pratiques qui sont courantes dans les films pornographiques sont en fait en général complètement inaptes à procurer du plaisir aux femmes qui sont mises en scène dans ces films. Et je pense aussi que faire prendre conscience aux hommes du fait que leur pénis, bah, c'est pas un bâton magique, hein, bah, à mon avis, ça peut leur faire que du bien à eux aussi, hein, en faisant baisser la pression qui pèse sur cet organe et sa sacro-sainte érection, et donc en leur permettant bah, d'explorer d'autres moyens de donner du plaisir à leur partenaire. Je pense que ça peut être bien pour eux aussi. Alors, il y a plein d'autres raisons hein, de penser que c'est important de connaître le clitoris. Je pense de manière plus générale que la connaissance du clitoris, bah, ça aide aussi à déconstruire les représentations asymétriques du désir qui, accessoirement, favorisent le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles hein, que les femmes continuent à subir massivement. Finalement, avoir conscience de l'anatomie du clitoris, de son fonctionnement, de son rôle dans le plaisir sexuel, bah, ça aide les femmes à se constituer comme sujet actif de leur vie sexuelle plutôt que comme objet passif du désir d'autrui. Voilà. Et puis au-delà du domaine sexuel proprement dit, le schéma de l'homme actif qui a quelque chose entre les jambes opposé à la femme passive à qui il manque ce quelque chose, bah, c'est aussi au cœur des représentations qui contribuent, je pense, à maintenir les inégalités entre femmes et hommes. Et d'ailleurs, bah, c'est pas un hasard si les psychanalystes qui ont inventé la notion d'orgasme vaginal et qui ont défini la frigidité comme incapacité à atteindre donc l'orgasme dit vaginal, bah, ils ont explicitement associer l'incapacité des femmes à transférer leur source du plaisir du clitoris au vagin à un refus d'accepter leur place subordonnée dans la société. Hein. C'est pas un hasard. Oui, au départ, c'est la théorie freudienne. C'est lui qui a conceptualisé l'idée qu'il fallait que progressivement, pour devenir femme et pour devenir une vraie femme, il fallait transférer sa source du plaisir du clitoris vers le vagin. Et après, c'est d'autres psychanalystes qui ont vraiment développé cette théorie en parlant d'orgasme vaginal et donc en expliquant ce que j'évoquais à l'instant. Et malheureusement, en France, on reste quand même très 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 imprégné par ces théories psychanalytiques freudiennes. Oui, je pense que c'est des idées que beaucoup de gens ont encore en tête. L'emprise des théories psychanalytiques de la sexualité, c'est quand même un phénomène très franco-français. Bon, c'est aussi... Il y a encore une perturbité en Argentine aussi, mais oui, ailleurs, ça fait un certain temps qu'on a remplacé ces théories qui sont totalement ascientifiques par... par des données scientifiques issues de la recherche. Ça fait quand même pas mal d'années que des scientifiques font des études et regardent très concrètement comment fonctionne le corps. Et ça permet de balayer en particulier cette ineptie freudienne. C'est sûr que cette idée de incommensurabilité des sexes, de différence radicale entre mes femmes, elle est... elle existe dans différents domaines, mais c'est dans le domaine de la sexualité en particulier que cette idée est la plus prégnante et semble la plus évidente. Enfin, ça fait vraiment partie du sens commun. Et donc je pense que c'est effectivement très important de déconstruire cette idée parce qu'elle est fausse, tout simplement. Oui, ça permet de créer de casser ce mythe d'une bicatégorisation fondamentale de l'être humain. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un continuum et une homologie, en tout cas fondamentale, du fonctionnement et de l'anatomie de l'organe érectile humain. Voilà, il y a un organe érectile humain, on peut dire. Ça s'appelle le pénis chez les hommes et le clitoris chez les femmes. Mais ensuite, il fonctionne pareil. Je veux dire, quand on a une excitation sexuelle, ça se gorge de sang. Dans les deux cas, c'est la source primaire du plaisir proprement sexuel. Après, on peut avoir plaisir à être caressé ailleurs, etc. Mais le plaisir spécifiquement sexuel, son siège est dans cet organe-là. si on ne connaît pas le clitoris, si on ne sait pas que c'est la source du plaisir sexuel, eh ben on est dans ce mythe du plaisir sexuel féminin qui serait en fait complètement cérébral ou qui viendrait du vagin. Donc finalement on se dit, ben voilà, la pénétration par un pénis, c'est ce qui va apporter du plaisir à l'homme, mais de surcroît, comme par magie, ça va aussi apporter du plaisir à la femme. Parler du clitoris, ben, ça permet de poser la question, mais oui, au fait, pourquoi dans les films, par exemple, quand on voit un rapport hétérosexuel, ben voilà, une fois que l'homme éjacule, ben ça y est, c'est fini. Mais pourquoi c'est fini, au fait? Peut-être que la femme, elle, n'a pas atteint l'orgasme et qu'elle aimerait bien continuer d'une autre manière. Ou bien, il y a un autre scénario typique, là encore, je fais référence à ce qu'on peut voir dans les films. Le scénario typique, c'est, voilà, on voit un couple hétérosexuel qui est sur le point d'avoir un rapport sexuel, et puis l'homme a une panne, comme on dit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, la femme dit, oh ben, c'est pas grave, mon chéri, et puis voilà, le couple passe à autre chose. Mais au fait, pourquoi? Parce que si elle aussi, elle était excitée, ben, c'est pas grave, ils peuvent faire autre chose et au moins, elle pourrait prendre du plaisir. Donc c'est, voilà, à travers ces représentations-là, on se rend compte en fait que la question du plaisir féminin est complètement invisibilisée, c'est complètement oublié. Oui, je pense effectivement que c'est vraiment très très important ces images, ces représentations, et qu'elles imprègnent profondément du coup, la vie sexuelle des gens. Donc là, on s'éloigne un peu de la représentation de l'organe lui-même, mais en tout cas, créer des représentations autres de la sexualité qui s'intéressent au plaisir féminin, je pense que c'est très, très important. Oui, j'ai remarqué ça, effectivement, aussi. La confusion entre vagin et vulve, elle est vraiment très, très répandue. Et oui, il y a aussi cette tendance à dire, voilà, le vagin, comme si le vagin, ça dessinait l'ensemble, en fait, cette espèce de, voilà, tous les organes génitaux, hop, ça s'appelle vagin. Bon, cela dit, alors, bon, c'est vrai que c'est important de comprendre que, voilà, ce que c'est exactement que le vagin, c'est un organe bien spécifique, différencié de la vulve, mais moi, j'aime pas trop le mot vulve, en fait, parce que, je sais pas, si je vous demande de dessiner une vulve ou de m'expliquer ce que c'est, ça va être assez compliqué. Enfin, voilà, quand on dit vulve, en fait, on sait pas trop de quoi on parle. Donc voilà, je pense que c'est important d'apprendre un vocabulaire qui permet de désigner vraiment les différentes parties du sexe féminin. Donc le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, le vagin, l'utérus, etc. Voilà, il y a des organes distincts, il y a des mots pour les décrire, et ben il faut apprendre ces mots-là, tout simplement. Je vois pas pourquoi il serait plus gênant de dire clitoris que de dire pénis. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'éprouve pas de gêne particulière, donc peut-être que je suis tellement habituée que je me rends plus compte de ce que ça peut faire aux autres. Dans les représentations, dans la représentation dominante, on a d'un côté les hommes qui sont là avec leur désir, avec leur organe qui manifeste son désir et qui appelle un soulagement. Donc on a cette idée que voilà, les hommes sont là avec leur désir et qu'il faut, il faut qu'ils assouvissent leur désir, et donc c'est pour ça qu'ils vont chercher en permanence à solliciter de préférence des femmes dans cette représentation dominante pour assouvir leurs désirs. Et puis de l'autre côté, on a cette image des femmes finalement qui, elles, n'ont pas d'organes, puisque voilà, elles ont juste un orifice finalement, donc c'est une espèce de vide. Donc avec cette absence d'organes du désir, ben, vient assez naturellement, si je peux dire, l'idée qu'elles n'ont pas de désir en fait spontané, puisqu'elles ne sont pas dotées de cet organe qui a une érection. Et donc finalement tout se passe comme si les femmes seraient par nature des espèces d'objets passifs qui vont être réveillés par un homme qui va aller vers elles, qui va manifester leur désir, voire qui va les toucher, comme si ne pouvait pas spontanément avoir une excitation sexuelle, ça va être le contact physique avec un homme qui va enclencher quelque chose. Cette représentation-là me semble de manière évidente être quelque chose qui favorise le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Donc ça c'est du côté, donc ça produit cet effet de justification du côté masculin, mais je pense aussi que du côté des femmes, il y a des femmes qui croient en fait que ça fonctionne comme ça, c'est ça qui est terrible. Être consciente qu'elles fonctionnent pareil, c'est-à-dire qu'elles aussi, elles éprouvent du désir ou elles n'en éprouvent pas, elles ont une excitation sexuelle ou pas, indépendamment du fait qu'il y ait une sollicitation extérieure. Être consciente de ça et apprendre, enfin, comprendre, sentir ce qui se passe dans leur corps, et déjà, donc, savoir que ça se passe dans leur clitoris et savoir comment il est fait, je pense que ça aide à ressentir aussi, à mieux sentir ce qui se passe. Je pense que ça permet aussi aux femmes d'être, de se dire, ben non, non, j'ai pas envie, donc je dis non. Et voilà, je pense que ça, enfin, du côté des femmes aussi, ça aide à dire non. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, il y a eu une enquête, c'était en fin d'année dernière, qui était faite sur la sexualité, et il y avait une question, alors je ne vais pas me souvenir exactement de la formulation de la question, mais en gros, enfin, on demandait aux gens s'ils étaient d'accord, plutôt d'accord ou pas d'accord avec un certain nombre d'affirmations, et une de ces affirmations, c'était quelque chose du style, en fait, en matière sexuelle, les femmes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que donc il y avait un gros pourcentage de gens qui étaient d'accord avec ça, et un grand nombre de femmes qui étaient d'accord avec ça. Donc je me dis, il y a effectivement pas mal de femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent et qui se disent, bon, finalement, peut-être dans un certain nombre de cas, bon, je sais pas si j'ai vraiment envie. Bon ben, puisque lui a vraiment envie, je vais le laisser venir, et puis peut-être, je sais pas, que ça va déclencher quelque chose, ou voir se convaincre que ben voilà, c'est bien, c'est ce qu'on éprouve, c'est le mieux qu'on puisse éprouver, voilà. Et ça, voilà, ça me semble être assez problématique par rapport à à ce qu'on évoquait, ces histoires d'agression sexuelle, de harcèlement, etc. Je me souviens avoir entendu des témoignages, des réactions d'adolescents qui, quand on leur parle de masturbation féminine, ils disent mais c'est impossible, une femme elle peut pas se masturber, voilà. Donc ça va de pair. Good going, stranger. And you can dance. For inspiration.
Madonna, Into the Groove, la chanson qui a fait un peu débat, puisqu'on se demandait si c'était une métaphore de la masturbation, quand elle dit « je danse toute seule le soir à l'abri des regards ». Et on va juste conclure cette émission.
Alors, comme on a Camille avec nous qui a réalisé ce reportage et cette interview de la chercheuse là, qu'on vient d'entendre, on voulait juste te poser deux, trois questions avant de se quitter. Déjà, bah, comment tu as eu l'idée de ce reportage ?
Alors, au départ, je voulais réaliser un objet avec une imprimante 3D, un petit peu pour, disons, pour me faire la main sur cette machine.
C'est le cas de le dire.
Et, voilà, merci. Et donc, j'ai fabriqué un clitoris. Et puis, un peu par jeu, j'ai commencé à poser la question autour de moi, de faire deviner quel était cet objet aux gens. Donc, comme on l'a entendu dans le reportage, en répondant aux questions des gens par oui ou par non. Et puis, j'ai observé des réactions qui étaient assez amusantes. Voilà, et ça m'a donné envie, en fait, de poser la question à plus de personnes. Et de les enregistrer pour faire un montage.
Et tu les as enregistrés où d'ailleurs ? Enfin, tu les interroges où ? Dans quel endroit ?
Alors, le reportage là qu'on a entendu, enfin le montage, ouais. Il a été enregistré pendant un festival, le festival de mon association qui s'appelle Labo Média à Orléans et qui a lieu tous les ans le 1er mai. Non, le 8 mai. Mais voilà, c'était pendant ce festival, pendant une soirée.
D'accord, donc c'était des gens que tu ne connaissais pas de
non.
tout âge ?
Pas du tout, c'était des gens qui passaient. Je m'étais installée dans un petit coin et puis voilà, ils passaient, je leur demandais s'ils voulaient participer à une expérience et puis je leur posais la question en leur montrant cet objet.
Et du coup, comment t'as fait le choix des personnes en fait, que t'interviewais ?
Eh bien, en fait, il n'y a pas de choix, c'est les gens qui sont passés là, qui passaient à cette soirée. Donc, effectivement, je crois que t'étais étonnée par le nombre d'hommes.
Ouais, c'est ça, parce qu'il y a quasiment que des voix d'hommes. Alors je me suis demandé si t'avais sélectionné plutôt les voix d'hommes, c'était un choix
non,
ou au contraire.
Non, c'était le hasard.
Le public ce jour-là, quoi.
C'était ouais. le hasard de la soirée. Ouais. Voilà. Alors il y a une chose qui était assez curieuse. Au début où je montrais cet objet, donc avant ce festival, je l'ai montré à des gens et ce qui était amusant, c'est que la plupart des hommes trouvaient l'objet et même assez rapidement, et la plupart des femmes ne trouvaient pas. Ça s'est pas vérifié dans cette soirée, donc c'était peut-être un hasard, mais en tout cas moi ça m'avait frappée.
Ouais. En tout cas, enfin ça montre dans tous les cas qu'il y a une méconnaissance des deux côtés. C'est ce qu'elle racontait aussi Odile Fio.
Oui, et ce qui est amusant aussi, c'est que beaucoup de femmes sont très enthousiastes quand je parle de ce projet et puis quand je leur montre l'objet. La plupart, enfin en fait j'ai eu que des réactions positives où elles étaient très enthousiasmées, amusées, enfin un peu comme le dit Odile Fio d'ailleurs, c'est vrai moi aussi j'ai observé ça, et puis beaucoup veulent que je leur envoie cet objet, enfin que je leur donne, alors on n'est pas toujours sur moi, donc par exemple là aujourd'hui j'en ai pas, mais je l'ai oublié. Oui, ça donne lieu à beaucoup de blagues comme j'ai des clitoris dans la poche, voilà, même
moi j'en ai plusieurs quoi.
Voilà,
déjà juste ça,
où je peux vous donner mon clitoris, je peux vous le montrer, enfin bon. Et donc bon là j'en ai pas, mais la plupart des gens à qui j'en parle veulent un exemplaire, donc je vous en enverrai un, c'est sûr, c'est promis.
Et pour le mot de la fin, est-ce que tu peux nous parler de l'orgasme vaginal et de l'orgasme clitoridien ?
Oui, alors ça, c'est ce que voulait ajouter Odile Fio en réécoutant le reportage. Elle a remarqué qu'il y a une imprécision dans ce qu'elle dit. Elle laisse entendre à un moment qu'il ne pourrait pas exister d'orgasme vaginal. Et en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que tout le plaisir n'est procuré par le clitoris, y compris... par la stimulation du vagin, mais indirectement.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est vraiment c'est l'organe du plaisir, quoi, le
oui.
clitoris.
C'est ça.
D'accord.
Parce que du coup, c'est comme des terminaisons nerveuses du clitoris qui, enfin, je sais pas, on le formule comme ça, un peu à la va-vite, mais qui sont dans le vagin et que même quand on stimule le vagin, c'est.
Oui, oui, c'est.
Donc, du clitoris qui
voilà,
sont stimulés
c'est,
au final.
C'est ça, c'est des bulbes veineux du clitoris qui entourent le vagin et donc. Lorsque on stimule cette partie-là, ça transmet la pression au clitoris. Mais donc, c'est toujours cet organe-là qui est responsable de l'excitation et de la stimulation. Enfin, de l'excitation.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Voilà, vous êtes au courant. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à pratiquer. Maintenant qu'on a la théorie. Bah, on vous souhaite une bonne soirée.
Ouais.
Si on...
Avant de se quitter, peut-être on peut dire qu'il y a une BD qui est sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelle L'origine du monde de Liv Stromqvist. Et donc, c'est une BD bah, un petit peu là-dessus.
C'est une femme, hein, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. Et sur cette thématique, justement.
Voilà, si vous voulez aller jeter un œil. Et bien, du coup, on se laisse là. La semaine prochaine, c'est On n'est pas des cadeaux.
Oui.
Et puis, on reviendra dans 2 semaines. C'était Lilith, Martine et les autres. Merci.
Très bonne
Camille.
Soirée à vous.
Bonne soirée.